Deutsche Welle. L'arbre à palabres.
Depuis le jeudi 8 février dernier se déroulent les opérations d'inscription des électeurs burundais sur les listes électorales et ce jusqu'au samedi 17 février en vue du référendum constitutionnel de mai 2018. Ce projet de référendum est bien évidemment contesté par l'opposition et la société civile, surtout celle en exil depuis 2015 et le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza, le président du Burundi. Alors, ce référendum est-il opportun? L'opposition et la société civile ont-elles raison de militer pour son boycott? À travers cette révision de la constitution envisagée, les bases des accords d'Arusha signés en 2000 en Tanzanie, est-ce que ces bases vont être sapées? Surtout que c'est grâce à ces accords qu'on a réussi à mettre un terme à la guerre civile qui a déchiré le Burundi. Pour en parler, nous sommes en compagnie de trois invités en ligne de Bujumbura, le porte-parole du président burundais. Bonjour Jean-Claude Karerwa Ndenzako.
Bonjour Eric.
Également en ligne, nous avons le porte-parole du Sénared, la principale plateforme de l'opposition burundaise en exil, Pancras Ntsimpaye. Bonjour Pancras.
Salut Eric, salut Philippe et Jean-Claude.
Et le troisième invité est le constitutionnaliste belge Philippe Rintiens, professeur de droit et de sciences politiques à l'université d'Anvers en Belgique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À la modération de ce débat, Eric Topona, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de la rédaction Afrique francophone de la DW, la radio allemande internationale émettant depuis nos studios de Bonn.
Deutsche Welle.
L'annonce en avril 2015, je le rappelais, de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé a donc ouvert une crise politique qui a fait au moins 1200 morts selon les chiffres à notre possession et plus de 400 000 déplacés, sans oublier les nombreux réfugiés éparpillés un peu partout. En dépit de plusieurs rounds de négociations sous l'égide de la sous-région, eh bien, la situation reste toujours volatile selon plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, l'ONU notamment. Alors, première question, Jean-Claude Karerwa Ndenzako, êtes-vous conscient de cet état de fait?
Non, vous savez, Eric, nous l'avons déjà dit, il ne serait pas une mauvaise chose de le répéter à qui veut l'entendre ou même à ceux qui font toujours la sourde oreille. La situation au Burundi, telle qu'elle est décrite par certaines organisations, ne reflète pas la réalité sur terrain. Je vais te parler du Burundi comme quelqu'un qui habite au Burundi, qui sillonne le Burundi du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le Burundi se porte mieux que plusieurs pays du monde. Il y a la paix et la sécurité qui sont une réalité au Burundi. Il y a le peuple burundais qui vaque quotidiennement à ses occupations, ce qui raconte des pêcheurs à nos troubles, mais qui n'est campagne de médisance, de diffamation qui continue. Le Burundi se porte bien.
Alors, Pancras Ntsimpaye, vous êtes donc le porte-parole du Sénared, qui est la principale plateforme de l'opposition burundaise. Vous vivez justement en exil depuis le début de cette crise. Est-ce que vous croyez, sous parole, Jean-Claude Karerwa Ndenzako, qui estime que la paix est revenue au Burundi?
Les propos de Jean-Claude me rappellent une lecture d'un autre dictateur de la région qui disait que son pays est tellement peuplé que même il n'a pas où mettre les animaux et que donc les réfugiés n'ont pas droit de cité dans son pays. Quand vous avez 5% de la population qui croupissent dans les camps des réfugiés dans des pays étrangers, vous ne pouvez pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quand vous avez, je dois le rappeler et préciser, et surtout corriger vos chiffres, monsieur Eric, les Burundais qui sont déjà tués depuis avril 2015, aujourd'hui, ils avoisinent 3000. Rien que l'année passée, la ProDH nous donne déjà plus de 500 Burundais qui ont été tués.
Je vais donner la parole, excusez-moi Pancras, je vais donner la parole au professeur Philippe Rintiens. Alors, vous avez écouté Jean-Claude Karerwa Ndenzako, le porte-parole du président Pierre Nkurunziza, qui estimait que la paix était revenue au Burundi. Pancras Ntsimpaye disait le contraire. Vous, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur de la vie politique au Burundi, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a un président de la
République, il y a deux vice-présidents, il y a un gouvernement, un parlement, il y a des administrations municipales qui sont en place. Donc institutionnellement, le Burundi est un pays normal. Donc en d'autres termes, si institutionnellement le Burundi est un pays qui a des apparences parfaitement normales, la réalité sur le terrain n'est pas exactement cela.
Oui, mais Jean-Claude Karerouane-Denzako, l'impasse politique, hein, comme vient de le relever le professeur Philippe Rensiens, est une réalité puisque Pancrane Sipahé a cité l'exemple des milliers de Burundais qui vivent en exil. Est-ce que la situation n'est pas toujours dramatique dans votre pays, le Burundi ?
Il n'y a rien d'anormal si les gens de l'opposition veulent prendre le pouvoir. C'est le contraire qui m'étonnerait.
Mais il y a des milliers de réfugiés qui sont quand même éparpillés un peu partout dans le monde.
Bon, vous savez, on ne peut pas nier qu'il y a des Burundais qui restent toujours à l'extérieur du pays. Mais la question serait peut-être de savoir pourquoi d'abord ces Burundais-là ont fui leur pays. Ce n'est pas parce qu'il y a un pouvoir tortionnaire à Bujumbura, mais c'est tout simplement parce que certaines personnalités de l'opposition, égoïstes, je m'excuse du terme, des pêcheurs à nos troubles, ont lancé une campagne de médisance, une campagne qui a poussé certains Burundais à prendre panique et à fuir le Burundi. Parce que le gouvernement a besoin de ces personnes-là, même de l'opposition. Le gouvernement a besoin d'une opposition.
Oui, justement, Pancrane Sipahé s'impatiente. Pancras, est-ce que vous avez quelque chose à dire? L'opposition essaie de surévaluer un peu la situation politique au Burundi.
Rien que la vague du référendum forcé, vous devrez vous attendre à ce que, contrairement à ce que le porte-parole de Bujumbura a dit, il n'y aura pas une vague de retour, mais il y aura plutôt une vague de réfugiés. Parce qu'aujourd'hui, la carte d'électeur, elle est devenue une carte d'identité, elle est devenue exigée à l'entrée du marché, elle est devenue exigée dans les transports en commun, il est exigé même chez les élèves qui sont chassés parce qu'ils ne sont pas inscrits. Maintenant, on vient de nous dire qu'à Rumonge, tout un marché a été fermé. On exige à tous les commerçants d'avoir une carte d'électeur. Il y a le porte-parole de la police qui menace et qui met en garde tout ce qui n'est pas inscrit ou tout ce qui s'inscrit en faux contre le référendum qui vont le payer très cher. La suite, ça sera quoi? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour le référendum, le Burundi, ce n'est pas votre place. Il dit, le porte-parole de Pierre Nkurunziza, est-ce qu'il peut nous expliquer que tout va bien pendant que son chef d'État, de facto, ne peut plus aller dans des conférences internationales, ne peut plus aller à l'Union africaine?
Mais c'est vrai que le président Nkurunziza se déplace très peu. Comment est-ce que vous expliquez cela, hein, Jean-Claude Karerouane?
Est-ce que tout va bien dans cette situation?
Oui, je laisse la parole à Jean-Claude Karerouane-Denzako.
Bon, Eric, au moment où je te parle, le président de la République s'est déplacé, il n'est pas au bureau, il est dans sa province natale pour se faire inscrire au rôle pour voter pour ou contre le référendum constitutionnel. Dernièrement, il a quitté le Burundi pour une visite d'État en Tanzanie et il quittera le Burundi chaque fois que la situation l'exigera. Mais il ne quittera pas le Burundi parce que des gens veulent qu'il quitte le Burundi. Et d'ailleurs, son travail se trouve au Burundi et j'aimerais que quelqu'un vienne me dire, puisque le président Nkurunziza n'a pas quitté le Burundi pour 2 ou 3 mois et il y a eu des activités qui ont été entravées. Là, je comprendrais peut-être comme en tant que conseiller du président de l'UBG, je lui dis, monsieur le président, quittez votre pays parce qu'il y a l'une ou l'autre activité qui a été entravée parce qu'il n'avait pas quitté. Mais sa mission, son mandat, c'est de servir son pays, servir son peuple et le peuple est content de l'accomplissement de sa tâche pour présider la destinée du Burundi et que les gens arrêtent de spéculer. Permettez-moi de réagir un tout petit peu sur ce référendum.
Moi, justement, j'ai une question à vous poser sur cette question de référendum qui divise. Hein. Tout à l'heure, Pancras Sipahé du Sénared faisait état des menaces qui planeraient ou qui pèseraient sur certains habitants forcés à aller s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que c'est normal de forcer les habitants à aller se faire inscrire sur les listes électorales?
C'est faux et archi faux. Ni la contribution pour le référendum constitutionnel, ni l'inscription au rôle pour voter pour ou contre le référendum constitutionnels ne sont forcés, on le fait volontairement.
Oui, excusez-moi, je vais redonner la parole au professeur Philippe Reintjens, qui est donc l'un des observateurs de ce qui se passe au Burundi. Professeur, toute l'opposition burundaise quasiment est donc vent debout contre ce projet de révision constitutionnelle qui, selon eux, qui selon elle, l'opposition, va signer la mort de l'accord de paix, des accords signés à Arusha en l'an 2000.
Contrairement à ce que dit le porte-parole du président de la République, toutes les informations que nous avons, elles sont concordantes, c'est que tout ceci n'est pas si volontaire que cela. Il a dit à deux reprises qu'on peut voter pour ou contre. Ce n'est manifestement pas le cas. Il est interdit, et ça a été rappelé par des officiels, il est interdit de s'opposer au principe du référendum et à appeler à voter non lors du référendum. Donc on va vers un référendum consensuel, si l'on veut, et c'est un peu l'imitation du modèle rwandais. N'oublions pas que fin 2015, il y a eu un référendum au Rwanda conduit dans exactement les mêmes conditions. Et alors que lorsque les deux pays, le Burundi et le Rwanda, se chamaillent, si je peux utiliser cette expression, ils s'inspirent l'un de l'autre parfois, notamment en matière de gouvernance politique. Il faut également se poser la question du statut de ce référendum, parce qu'il semblerait bien que le gouvernement pense que la Constitution peut être amendée suite simplement au référendum, ce qui n'est pas le cas. La Constitution est très claire là-dessus. Il est vrai que l'article, j'ai la Constitution devant moi, la Constitution de 2005. L'article 298 dit bien, et ça c'est ce qu'on va faire maintenant, que le président de la République peut soumettre au référendum un projet d'amendement de la Constitution, ce qui va être fait en mai, et ce qui est parfaitement constitutionnel. Mais l'article 300 de la Constitution dit que le projet ou la proposition, en l'occurrence le projet, puisque c'est un projet gouvernemental soumis au référendum, que le projet d'amendement de la Constitution est adopté à la majorité des 4/5 des membres qui composent l'Assemblée nationale et les 2/3 des membres du Sénat. Donc il faut, si l'on veut respecter la Constitution, après le référendum, soumettre cette révision constitutionnelle au Parlement, sinon on ne respecte pas la légalité.
Mais le problème est que le Parlement est contrôlé par le CNDD-FDD, le parti au pouvoir.
Attention, je n'en suis... Oui, c'est vrai, mais par exemple, et là on l'évoquait, je veux bien y revenir plus tard si l'on veut, on évoquait les équilibres prévus par l'accord d'Arusha. Et notamment,
oui, mais c'est l'inquiétude.
Dans le projet de constitution qui n'est même pas publié, il y a une petite brochure faite par le gouvernement qui essaye d'expliquer les tenants et les aboutissements de cette constitution, mais en fait le texte de la constitution, même si on l'a, n'a jamais été publié officiellement. Mais donc je me base sur le texte que l'on connaît. Bon, là les équilibres, et je parle surtout des quotas ethniques prévus par l'accord d'Arusha et repris dans la constitution de 2005, restent en vigueur, ne sont pas touchés, même ils sont même étendus. Par cet amendement constitutionnel.
Oui, excusez-moi, professeur.
Je crains beaucoup moins une atteinte aux équilibres de l'accord d'Arusha et je citais la nécessité d'impliquer le Parlement, la nécessité constitutionnelle d'impliquer le Parlement parce qu'il est vrai que le CNDD-FDD a une très large majorité au Parlement, mais n'oublions pas que parmi les députés, y compris du CNDD-FDD, il y a des Tutsis et qu'ils dépassent qu'il faut des voix Tutsis pour atteindre les 4/5 des membres qui composent l'Assemblée nationale. Mmh. Et en d'autres termes, il se pourrait que si les Tutsis estimaient que leurs intérêts, même leur sécurité ou leurs préoccupations, leurs préoccupations essentielles sont mises en cause, ces membres, y compris du CNDD-FDD, pourraient s'y opposer au Parlement.
Oui, je vais redonner la parole à Pancran Simpaye, le porte-parole du Sénaret, qui visiblement ne partage pas, je présume, Pancras, vous ne partagez pas ce point de vue. Vous nous disiez même, avant de venir en studio, que ce projet de révision constitutionnelle a des ambitions cachées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Non, ici je dois préciser, je pense que toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, doit retenir que ce n'est pas une révision de la Constitution. C'est une nouvelle Constitution que Pierre Nkurunziza veut mettre en place. Il veut enterrer définitivement l'accord d'Arusha,
qui avait pourtant fait ses preuves en matière de cohabitation. Alors, l'idée, c'est quoi? L'objet de cette nouvelle constitution, c'est quoi? C'est de décréter, ériger Pierre Nkurunziza en roi absolu, en président à vie du Burundi. Et ici, et le professeur Ndjas le dit si bien, s'il évite de passer par le Parlement en vertu de l'article 300 et par le Parlement, c'est parce que, précisément, aujourd'hui, même au sein même du CNDD-FDD, contrairement à ce que dit le porte-parole, il y a des gens qui sont opposés à ce que Pierre Nkurunziza se proclame président à vie. Les gens ont été au maquis, les gens ont versé beaucoup de sang, beaucoup d'efforts ont été consentis, beaucoup de sacrifices ont été consentis pour une lutte pour la démocratie. Non pas, les gens ne sont pas allés au maquis pour que Nkurunziza soit président à vie. C'est pour cette raison qu'il y a une dissonance au sein même de la majorité.
Oui, mais Pancras, est-ce que vous avez eu le temps de lire un peu le contenu, le contenu de ce projet de...
Permettez-moi, il dit que de signaler que l'article que le professeur n'a pas cité, l'article 299, précise très bien, permettez-moi de le lire intégralement, aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie, à l'intégrité du territoire de la République. C'est l'article 299 qui interdit présentement, au moment où nous avons 5% de la population burundaise qui est dans le camp des réfugiés, au moment où nous sentons que celui qui est contre ce référendum est un ennemi de la nation, donc un référendum qui divise, en vertu de l'article 299, la Constitution ne peut pas être abrogée pour amener une nouvelle Constitution. Si vous permettez deux secondes, laisse-moi préciser et rappeler au porte-parole que Nkurunziza ne vient pas de passer 2 à 3 mois sans sortir du pays. On parlait de 3 ans. 3 ans sans qu'il sorte du Burundi. Aujourd'hui, Pierre Nkurunziza, même s'il s'est rendu en Gozi, je vous invite à aller voir M. Eric. Il ferme la route pendant 4 heures pour que sauf qu'il y a un coup de puisse passer.
Oui, nous allons y revenir peut-être tout à l'heure. Jean-Claude Karerouane-Denzako, au sujet de ce projet de révision de la Constitution ou bien de nouvelle Constitution, c'est selon. Est-ce que vraiment c'est opportun d'organiser ce référendum?
Bon, Eric, rapidement, je voudrais d'abord m'inscrire en faux ce que les deux invités viennent de dire. Donc, il y a l'un des grands principes de la légistique stipule que la voie empruntée pour promulguer une loi, pour mettre en place une loi, doit être la même voie pour l'amender, pour la modifier. La constitution qui gouverne le Burundi jusqu'à aujourd'hui, celle de 2005, a été votée par référendum. Et par conséquent, il est clair et net que l'amendement de la constitution que nous avons aujourd'hui doit passer par le référendum, n'en déplaise à personne. C'est un principe de la justice que les gens arrêtent de spéculer à citer certaines dispositions de la Constitution, il doit se référer. Et puis, nul au monde, nul, aucun État, aucune personne, aucune organisation plus puissant ou puissante qu'il se croit, ne peut s'arroger le droit d'usurper cette faculté au Burundi, au peuple burundais.
Mais c'est je vous ai posé la question, Jean-Claude Karerouane-Denzako, est-ce que ce référendum était opportun, le référendum de mai prochain?
Très, très opportun, en ce sens que c'est le peuple burundais qui l'a voulu, qui l'a exigé. Le peuple burundais, à travers la Commission nationale de dialogue inter-burundais, après avoir constaté qu'il y a eu des malentendus autour des élections de 2015, suite à certaines dispositions constitutionnelles qui étaient litigieuses, a demandé que la Constitution soit amendée.
Effectivement, le professeur Philippe Reintjens le disait. Et effectivement, je voulais justement vous redonner la parole. Allez-y, hein, professeur.
Oui, et l'argument légistique qui a été avancé est absolument intenable puisqu'il y a aujourd'hui un texte de constitution dont l'article 300 dit ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ce projet doit être approuvé à la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale. Cela est incontestable. Je ne pense pas du tout qu'on puisse comparer la situation de 2005 lorsqu'il n'y avait pas encore de constitution à celle aujourd'hui, en 2018, où cette constitution existe, celle de 2005, et elle doit bien évidemment être respectée. Alors je suis tout de même assez inquiet d'entendre que l'on va interpréter une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois que les interprétations constitutionnelles mènent à des impasses politiques au Burundi, qu'on propose une lecture de la constitution qui est complètement contraire au texte même de la constitution.
Je voulais peut-être refaire un dernier tour de table. Jean-Claude Karerouane Denzako, au-delà de tout, est-ce que le secrétaire général de l'ONU n'a pas raison d'appeler au dialogue, puisque c'est vrai, vous avez le droit sur le plan juridique d'organiser ce référendum, mais est-ce que par souci de décrisper un peu ce climat politique national morose, est-ce qu'il n'est pas temps de discuter avec tous ceux qui étaient contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza?
Oui, Eric, le secrétaire général des Nations Unies a droit de dire aux Burundais, à n'importe quel peuple du monde, de s'engager dans un dialogue. Mais dire ça aux Burundais, c'est comme prêcher un converti. C'est comme apprendre à un prêtre de faire un signe de la croix, parce que le gouvernement du Burundi, le peuple burundais, en a déjà fait une philosophie, une culture. Le dialogue est toujours là, il sera toujours là. Même après l'amendement de la Constitution, le dialogue sera toujours là. Mais je voudrais inviter d'abord Pancras et Timaï à lire entre les lignes de la Constitution, surtout l'article 298 qui dit que le président de la République peut soumettre au référendum un projet d'amendement de la Constitution. Pourquoi les gens ferment les yeux sur certaines dispositions constitutionnelles pour évoquer des...
Oui, Jean-Claude, je souhaiterais qu'on avance un peu. Je souhaiterais qu'on avance un peu.
30 secondes. Ok, allez-y. 30 secondes, parce que je ne peux pas me taire quand on est en train de calomnier le président de la République. À Tibitoke, au 18 novembre, le président de la République n'a pas dit ce que Pankaj Timaï vient de dire. Ce sont des mensonges. Je pense qu'il devrait plutôt apprendre à analyser tout acte de la engage sur son plan locutoire, sur son plan perlocutoire. S'il ne peut pas le faire, il y a des gens qui peuvent lui apprendre certaines leçons.
Alors, une réaction, Pancras Sipayé?
Je pense que ce que le pouvoir de facto de Bujumbura doit comprendre, c'est que ce forcing ne pourra que exacerber la situation de crise qui était déjà préoccupante et alarmante. La seule voie, c'est les pourparlers, c'est le dialogue qui était à Arusha. Ce forcing va déboucher sur une crise, sur une guerre civile, parce que aujourd'hui, le peuple burundais ne peut pas accepter que Pierre Nkurunziza s'érige en maître absolu du Burundi. Le peuple burundais ne peut pas accepter que Nkurunziza soit président à vie ici. Et je tiens à rappeler à mon jeune frère Jean-Claude que j'ai occupé les fonctions qu'il occupe et que, à ce titre de droit d'aînesse, il devrait se garder de penser que la démission à me donner en cette matière. Parce que ce que j'ai dit, je le répète, Pierre Nkurunziza a menacé son camp. C'est clair, il a dit, je ne ferai pas la même erreur de 2015. Et aujourd'hui, j'aimerais poser la question à notre ami Jean-Claude, et surtout à toi, Eric. Par le passé, on n'avait pas entendu beaucoup Jean-Claude, mais on entendait quelqu'un d'autre, qui curieusement n'est plus audible, parce qu'effectivement, il faut le reconnaître. Il y a une fronde au sein des DFDD parce que s'il y a encore une guerre civile au Burundi, il y aura indubitablement une déflagration dans la région.
Voilà, merci Pancras Sipayé. Avant de laisser le professeur Philippe Rinkietz conclure ce débat, alors rapidement, Jean-Claude Karerouane Denzako, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une fronde au sein du système de la galaxie Nkurunziza, comme le relevait tout à l'heure Pancras Sipayé?
Non, moi je ne reconnais aucune fronde au sein du parti au pouvoir au Burundi. Il y a un sentiment de démocratie, il y a un débat contradictoire. Au sein du parti, tout le monde ne peut pas avoir le même point de vue, mais la divergence des points de vue au sein d'un parti politique, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'il y a un débat contradictoire, un débat enrichissant. Ce qu'on qualifie de frondeur aujourd'hui, ce sont plutôt des gens qui ont... Il n'y a qu'un choc des idées qui fait jaillir la lumière au sein du parti au pouvoir.
Voilà, merci. Ce sera donc votre mot de la fin. On va donc laisser le soin au professeur Philippe Rentientz de conclure ce débat. Professeur, on a dressé un petit bilan 3 ans après le début de la crise. L'opposition estime que la situation s'est empirée. Le pouvoir pense le contraire et c'est normal. Le pouvoir pense que la situation s'est normalisée. En conclusion, Pierre Nkurunziza a-t-il gagné son pari?
Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire, hein, même si la révision constitutionnelle passe lors du référendum, ce qui est tout à fait prévisible. la crise politique ou l'impasse politique demeure. Et là, je suis sur ce point-là. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le débat au Burundi soit contradictoire. Et là, je partage l'avis de M. Chimpaye qu'il faut un dialogue réel, honnête et inclusif, qui est absolument nécessaire pour assurer l'avenir du Burundi.
Voilà, on va voir ce que répondra le pouvoir de Bujumbura. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à ce débat sur la situation politique au Burundi, particulièrement sur la tenue en mai prochain du référendum constitutionnel ou bien d'une réforme constitutionnelle, c'est selon. Et pour en parler, nous étions en compagnie donc du professeur Philippe Rentiens, professeur de droit et de sciences politiques à l'université d'Anvers en Belgique. Nous étions également en ligne depuis Bujumbura avec Jean-Claude Karerouane-Denzako, le porte-parole du président burundais Pierre Nkurunziza, et Pancras Ndhsimpaye, le porte-parole du CNARED, la principale plateforme de l'opposition burundaise en exil, était également de la partie. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté vraiment de prendre part à ce débat.
Merci Eric, portez-vous bien.
Merci, au revoir.
Et au micro, c'était donc Eric Topona. La semaine prochaine, vous retrouverez dans ce même studio. Et à la même heure, mon collègue Fréjus Kenom. Restez fidèles au reste du programme de la DW, la radio internationale allemande.